Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Résonance, une émission réalisée et mise en onde par Simon de Borne. L'aventure est liée, écrit le philosophe Vladimir Yankelevitch, à ce temps du temps qu'on appelle le temps futur et dont le caractère essentiel est d'être indéterminé, parce qu'il est l'empire énigmatique des possibles et dépend de la liberté. Le possible n'est-il pas ce qui peut être ainsi ou autrement, et qui sera ceci ou cela, selon mon courage, selon les risques que je consentirai à courir, selon ma bonne ou ma mauvaise chance. La région de l'aventure, c'est l'avenir. L'avenir est ambigu d'abord parce qu'il est à la fois certain et incertain. Ce qui est certain, c'est que le futur sera, qu'un avenir adviendra, mais quel il sera, voilà qui demeure enveloppé dans les brumes de l'incertitude. Fin de citation. L'année particulière, incroyable, inédite, compliquée, difficile que nous venons de vivre, de parcourir ensemble, a mis en tension très forte les fondements du vivre ensemble. Cette situation nous incite à réfléchir, à chercher, à comprendre collectivement, individuellement, ce que signifie le vivre ensemble, la porosité entre proximité et éloignement. Comment le comprendre ? Le mettre en œuvre, en pratique. La vie est par essence incertitude et elle résulte en permanence d'une série de choix aléatoires que nous faisons. Peut-être que les écrits de Nietzsche peuvent venir nous aider dans cette réflexion. Il a beaucoup écrit, pas seulement à l'occasion de la nouvelle année, mais bien sûr l'idée même d'année nouvelle. Il écrit notamment « Deviens ce que tu es », c'est donc inciter quelque part chacun d'entre nous à marcher dans cette direction, en osant trouver son chemin propre. Voilà un vœu qui peut peut-être émerger des brumes de l'incertitude. Invention à deux voix vous propose aujourd'hui des séries d'entretiens avec des personnalités du monde artistique, littéraire, philosophique, anthropologique, sociologique, politique. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir pour cette première émission de l'année l'écrivain afghan Rosrao Mani. Alors salam Rosrao Mani.
Salam alaikum.
Ravi de vous avoir à nouveau parmi nous à ce micro. Et il y a toute une suite, hein, puisque nous nous retrouvons depuis 2017, depuis votre venue à Bourg-en-Bresse à cette époque, quand vous étiez tout juste réfugié politique ici. Et puis on s'était retrouvé en 2018, on en parlera aussi tout à l'heure, à propos de la première parution française, en tout cas, d'un de vos romans, Une petite vie, qui était aux éditions Intervalle. Alors, est-ce que vous allez bien tout d'abord ?
Oui, je vais bien.
Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Je voulais peut-être rappeler en quelques mots que vous êtes né à Kaboul en 1987 et que vous avez bien sûr grandi en Afghanistan. Et puis vous vivez depuis 2015, si je ne me trompe pas, à Paris comme réfugié politique. Et puis je rappelle également que lorsque vous étiez en Afghanistan, vous avez aussi suivi donc l'université, les sciences politiques et juridiques à l'université de Kaboul. Mais donc ce qui fait que Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cette émission de résonance. C'est pour évoquer la sortie de votre cinquième roman, La mort et son frère, qui sont parus aux Actes Sud et qui étaient traduits donc du persan par Sabrina Nouri Moussa. Et ce nouveau roman, qui avait déjà été écrit en persan, hein, c'est une traduction française, il était déjà paru. C'est un bon moment aussi pour vous, Ross Rao, d'avoir ce second ouvrage en plus aux éditions Actes Sud.
Oui, c'était une bonne nouvelle quand j'ai reçu le contrat.
Oui. Bah,
d'abord, j'attendais un peu qu'ils confirment s'ils acceptent le livre ou pas, traduction ou pas. Et puis le contrat, oui, c'était bon. Et en plus chez Actes Sud,
et oui.
Moi je suis très heureux. Le seul problème c'est cette année inattendue.
Tout à fait.
Qui n'était pas une bonne année surtout pour les écrivains. Les gens qui travaillaient, dans le milieu littéraire,
tout à fait,
et aussi artistique, la parution du livre a été. On attendait que le livre va sortir en avril 2020.
Mm-hmm.
Et puis.
Le confinement étant là, ça a repoussé.
La parution a été retardée. Mm. Et le 7 octobre, le livre est sorti. Mais de nouveau, on avait un reconfinement. Et voilà, c'était une bonne nouvelle,
mais c'est ça.
Pas dans un mauvais temps.
C'est ça, et c'est sûr qu'on peut le regretter. Beaucoup d'événements artistiques de toute nature que ce soit ont été limités, repoussés, annulés, reportés. Et c'est vrai que ça a été une année difficile pour toute la création artistique en elle-même. Et il est certain que c'est dommage, effectivement, que pour la sortie de votre livre, celui-ci n'ait pas pu bénéficier finalement de toute la communication qui, en temps normal, aurait pu accompagner la parution, sa parution. Et puis, bien sûr, sa présentation à un public le plus élargi possible.
Hein.
Mais du coup, peut-être essayons, si vous voulez bien, Ross Rao, Mani, de parler de ce roman qui, finalement, c'est un roman sur la violence de Kaboul, finalement. Hein, parce que ce livre démarre sur un attentat. Hein, on est dans la ville. Un matin d'hiver, un jeune homme sort de chez lui pour aller retrouver celle qu'il aime. Et puis, 10 minutes après son départ, une roquette tombe sur sa maison et tue 4 membres de sa famille. Et du coup, tout ce que vous... Alors, je dirais, il y a ce premier aspect qu'on va pouvoir développer ensemble, c'est-à-dire la violence aujourd'hui à Kaboul, qui est là dans un quotidien et dont chacun des habitants fait comme il le peut pour vivre, peut-être survivre aussi dans un climat comme celui-là. Et puis en même temps, vous avez fait en sorte que cet attentat, qui est le point de départ de cet ouvrage, finalement, vous nous... le fait de percevoir par une multitude de personnages. C'est-à-dire que tout au long du livre, je pense à un chauffeur de taxi, à d'autres protagonistes qui sont un petit peu plus près ou un peu plus loin de ce drame, vous nous faites vivre aussi ce drame, cet attentat, par des regards complètement différents, avec une polyphonie, si je peux aussi employer ce terme, une polyphonie d'individus.
C'est exactement ça. Moi, je préfère le mot étrangeté.
Étrangeté.
Pour résumer le livre. Dans un des chapitres du livre,
oui.
Il y a un soldat américain qui est à Kaboul.
Tout à fait.
En mission. Mmh. il a une mère passionnée d'étymologie. Mmh. Et lorsque ce soldat parle avec sa mère, chaque fois qu'il lui parle, il lui dit que Kaboul, c'est tellement étrange, c'est une ville tellement étrange que moi, je n'arrive pas à le comprendre. Mmh. Et sa mère dit que, il utilise bien sûr le mot stranger, mmh, ou étranger.
Étranger. En fait, mmh,
qui ont la même racine.
Tout à fait.
Et sa mère dit que Kaboul doit être étrange parce que c'est une ville qui est à l'extérieur de notre pays, qui est les États-Unis. Hmm. Et elle dit aussi que si tu cherches le mot, l'étymologie de son mot, tu vas voir que ça vient du latin. Et ce qu'on a à la fin comme racine, c'est le mot extérieur. Étranger, ça veut dire extérieur, ça vient de là. Mm. Et moi, je voulais montrer cette étrangeté pour dire que Kaboul, c'est à l'extérieur, c'est une ville à l'extérieur du monde actuel.
Oui.
Et même coupé de l'histoire mondiale. Mm. C'est une ville qui, depuis les années 90,
c'est ça,
vit une vie solitaire complètement, parce que ça, là, à Kaboul, vous pouvez trouver facilement et à chaque moment les vestiges des, je sais pas, du temps pré-moderne, mmh, en même temps une vie moderne dans certains quartiers, et en même temps dans certains endroits il y a des signes d'une vie post-moderne.
C'est ça.
Et ça, c'est ce que moi je comprenais pas. Mmh. Parce que quand j'étais en voiture, dans un taxi par exemple,
oui,
j'étais entouré par les gens qui n'avaient aucune relation avec moi. Et quand je dis relation, mmh, on ne se comprenait pas du tout.
C'est ça. Mmh.
Et c'est cette étrangeté, cette déchirure historique, si je puis dire. Parce que moi, honnêtement, je pense que Kaboul, c'est une ville qui n'a aucun lien avec l'histoire,
c'est ça,
mondiale. La deuxième chose,
oui,
ce que vous dites, violence, pour moi, je préfère utiliser le terme qu'Hannah Arendt utilisait quand il était témoin du procès de Eichmann.
Oui.
Il disait que Eichmann, c'est l'incarnation de la banalité du mal.
C'est ça.
Mmh. Et banalité du mal, à son avis, c'est manque de pensée. Quand on n'arrive plus à penser, mmh, ça veut dire que le mal devient quelque chose de banal. La violence à Kaboul, je sais bien les enjeux politiques, les rivalités entre les
c'est
pays
ça
qui nous entourent,
bien
les
sûr, elles sont nombreuses.
Mmh. Oui, tout ça, c'est compréhensible. Mais vous voyez bien dans le livre que cette violence, c'est pas seulement causée par une roquette qui tombe sur une maison. Il y a un petit garçon qui harcèle un chien errant, par exemple.
Oui.
Il y a une petite fille qui vole des pierres tombales, par exemple.
Oui, complètement.
Et ça aussi, c'est une sorte de corruption totale d'une société.
Oui.
Et vous avez aussi évoqué la multitude des personnages.
Oui, il y en a une bonne trentaine de points de vue, hein, finalement.
C'est ça, exactement. Moi, j'adorais toujours cette forme qu'on dit galerie des personnages.
C'est ça.
Et là, pour raconter cette histoire, je me disais que il faut qu'on entende plusieurs voix, même s'il y a un seul narrateur. Moi, je préfère. Je suis très d'accord avec vous quand vous dites polyphonie, parce que c'est pas seulement avoir plusieurs narrateurs qu'on a cette polyphonie. Dostoïevski, il est célèbre pour.
Pour aussi cette écriture.
Il y a toujours un seul narrateur dans tous ses livres, à l'exception d'un de ses livres épistolaires où deux personnages s'écrivent. Et aussi la quatrième chose, je suis désolé, j'ai parlé.
Non, c'est très bien, Rosrao, pas de souci, bien au contraire.
c'est, pour moi, le rythme de cette ville. C'était très important. Parce que à Kaboul, la vie est très rythmée.
C'est ça. Vous dites même qu'elle est frénétique aussi, quelque part, cette
elle
vie.
Elle est frénétique, exactement, c'est ça. Et dans la version persane du livre, la version originelle, on peut. Je peux dire qu'il y a presque 10 ou 20 points qu'on a mis. Il n'y a que des virgules.
C'est ça.
Et que, voilà. C'était un peu compliqué de traduire.
C'est ça, ça doit être compliqué aussi ce travail.
La même chose en français, oui. Ouais. Parce que pour nous, avec un... Quand vous dites « et » en français, ouais. « moi » et « mon ami » et « moi », ce « et » en français, c'est, ça se prononce... On doit le prononcer, tandis qu'en persan on peut le prononcer ou ne pas le faire. Donc avec des virgules on peut facilement lire sans se sentir gêné.
C'est ça.
Voilà.
Donc du coup, comme vous disiez, l'étrangeté de Kaboul aussi. Alors, vous disiez aussi quelque part, est-elle étrangère parce qu'elle est située nulle part aussi. Donc quand vous évoquiez tout à l'heure, peut-être qu'elle est coupée d'une histoire contemporaine, de peut-être aussi coupée de son histoire précédente aussi. C'est vraiment une ville qui, pour vous, effectivement, dans son étrangeté, fait que chacun finalement, pour ceux et celles qui y vivent, dans toute cette étrangeté, dans toute cette rythmicité frénétique, rythme fou, où tous les jours, à toutes les minutes, il peut se passer quelque chose. Et quelquefois, c'est difficile pour certains d'entre eux, malheureusement, d'échapper à la mort au quotidien. Et chacun essaye de survivre, de lutter pour continuer à vivre dans cet univers si particulier.
Exactement. Bah, écoutez, il y a quelque temps, moi j'ai dit dans une émission, j'espère que la répétition avant d'écrire le livre, moi j'avais pas envie de retourner à Kaboul. Même dans l'imaginaire, à travers l'imagination.
Oui, c'est ça.
Parce que je me suis éloigné de cette ville pour ne pas y retourner. Voilà.
C'est ça. Oui, c'est une nécessité.
Exactement. Et puis, un jour, un accident banal.
Oui.
M'a fait penser à la différence entre drame, le mot drame, ce qu'on pense de ce mot, ici, en France, ou en Europe, ou en Occident, et chez nous, pour moi, à Kaboul, parce que moi, j'ai vécu toujours là-bas, et donc je connaissait cette ville. Drame, un drame pour... Je donne un exemple.
Oui, je vous en prie.
Je suis désolé, pour un Parisien, pour un Marseillais, pour, je ne sais pas, un Lyonnais. Je sais qu'ici aussi, on a des drames, des vrais drames, mais un drame quotidien, c'est rater le dernier métro, par exemple.
Oui.
Et ce que j'ai vu, moi, j'ai vu et j'étais étonné quand j'ai constaté que le jeune homme était tellement en colère.
Ouais.
Et je n'arrivais pas à comprendre ça.
C'est ça.
Oui, ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis dit que un drame pour moi, à Kaboul,
ouais,
c'est pas du tout ça.
C'était, oui.
Parce qu'on rate toujours il n'y a pas de métro à Kaboul, mais on rate toujours les taxis, je sais pas. Un drame, un vrai drame là-bas, c'est toujours lié à la mort.
C'est
toujours
ça.
Et sans exception.
Mm.
C'est lié à la mort. Et depuis 30 ans, c'est un fait quotidien.
C'est ça. Et chacun vit de ça de manière énorme. Et votre livre, justement, il montre bien cet univers qui est, je peux peut-être utiliser ce terme, ça provoque un univers vraiment glaçant tout le temps, de minute en minute.
Exactement. Et écoutez, j'ai l'impression que nous vivons dans les toujours, nous vivons toujours, ouais, nous, à Kaboul, dans les tragédies, soit grecques, soit persanes.
Ouais.
Parce que là aussi, le surtout dans la tragédie persane, le leitmotiv, c'est vivre ou mourir.
Il y a
toujours...
La mort est toujours présente. Ouais.
La mort est toujours présente. Et j'espère que c'est... que c'était un travail qui... Un travail réussi, en tout cas.
Mmh, tout à fait.
Pour montrer cette étrangeté.
Et on peut penser, au vu de ce que vous venez de nous faire partager, et on peut tout à fait mesurer cette différence d'appréciation, effectivement, entre rater son métro et être complètement désappointé. Et on peut totalement imaginer votre regard interpellatif, effectivement, quand on vient de Kaboul, ou à tous les coins de rue, à chaque moment, là, c'est pas simplement une déception, c'est pas simplement un fait de cet ordre de rater son métro, mais effectivement, je peux perdre la vie. Et les dimensions ne sont plus du tout les mêmes. Alors, on peut se demander aussi combien il faut aussi de force intellectuelle, morale, pour résister dans un univers comme celui-là et pour faire comme ce que vous avez fait pendant quelques années, écrire, défendre une pensée, développer une pensée dans de telles conditions.
C'est exactement ce que vous dites. Mais je pense qu'on peut pas, on peut parler d'un côté de,
oui,
cette violence et vivre en guerre permanente, mmh, dans une situation qui n'est pas du tout normale, entre guillemets, et vivre toujours, être en suspens entre la mort et la survie, c'est dur et difficile.
Mais c'est peut-être les mots, et c'est peut-être le fait de votre imaginaire aussi, et de pouvoir trouver cette force de, je dirais, de s'ouvrir des espaces de liberté à travers votre pensée et votre écriture.
Exactement. Bah, écoutez, c'est un échappatoire. Parfois. Et vous avez évoqué quelque chose de très juste quand vous dites que les mots sont... à travers les mots, on arrive à vivre, à survivre dans un pays comme l'Afghanistan. Mm. Moi, je suis très d'accord avec ça parce que Justement, quand j'étais là, c'était le seul moment de quiétude pour moi, ou de tranquillité absolue.
C'est ça, de respiration intérieure.
Oui, bien qu'on sache qu'à l'extérieur, il y a des attentats, que quelques personnes vont mourir, vont être tuées, que quelques autres vont être blessés. Il y a des gens qui vont devenir enfants, orphelins. Et tout ça, bien qu'on sache cette situation, qu'on comprenne tout, on a quand même on crée une sorte de carapace pour s'isoler et pour refaire le monde.
C'est ça.
Parfois, je pense que les écrivains ont besoin de refaire le monde. C'est ce qu'ils font déjà.
Bien sûr.
Et oui, c'était un refuge, l'écriture. Et la deuxième chose que dont je voulais parler, c'est que c'est pas seulement la violence, le mal, l'étrangeté d'une ville comme Kaboul qui est gênant. Il y a aussi une sorte de, je ne sais pas si ce mot existe en français, d'inculture.
D'inculture, oui.
Culture. Mm-hmm. Et c'est-à-dire que les traditions sont tellement lourdes,
sont
tellement présentes partout, qu'on n'arrive pas à vivre comme on veut.
C'est ça.
Et surtout pour ceux qui osent penser, la situation devient infernale.
Et cette situation, est-ce qu'elle ne provoque pas chez l'écrivain que vous êtes, et lorsque vous étiez encore là-bas, est-ce que du coup, cette tension, justement, ce désir de liberté à travers les mots, mais en même temps, cette tension extérieure, mais qui a vraiment une très grosse pression, n'intervient pas par une espèce aussi, si je peux dire, de vous oblige pas une certaine censure qui viendrait peut-être de temps à autre, ou comment naviguer justement entre cette liberté, entre cette tension extérieure, est-ce que à un moment donné on se censure quand même, parce que comment ressentiez-vous les choses sur ce point de vue?
Vous avez tout à fait raison, et vous avez lu, je m'en souviens, mon dernier livre,
tout à fait,
et dans ce livre, il n'y a rien de Kaboul.
Oui.
J'ai imaginé une ville, un café, quelques personnages qui peuvent être facilement des Français, des Espagnols,
absolument,
pas des Américains.
Ça peut être n'importe où dans le monde, effectivement. Ah, oui.
Voilà. Et tous mes livres précédents sont exactement comme ça. Parce que je savais bien que si j'écris de cette ville de ces êtres, le résultat sera soit quelque chose où on voit les traces de la censure ou autocensure, soit je vais juger des personnages, ce qui n'est pas le travail d'un écrivain, d'un romancier. Le romancier doit être neutre. Il n'a pas le droit de juger ses personnages. Et moi, je sais que c'est peut-être pas bien de le dire, mais une sorte de haine que j'avais,
que vous aviez,
contre toute contre la situation en général, j'avais peur image, ou c'est d'être ça. Hyper critique sans critique, mais pas juste.
Alors c'est peut-être, je voudrais mettre justement, par rapport à ce que vous venez de dire aussi, un propos d'un autre Afghan, Atik Rahimi, écrivain, cinéaste, photographe, et il disait ceci dans l'idée de sa rencontre avec la censure, mais en même temps de son point de vue de ce que c'est que l'écrivain. Alors, je le cite, si vous voulez bien, il dit ceci, « La vocation d'écrivain, c'est avoir faim de dire quelque chose. Autrement dit, c'est une question viscérale et biologique qui n'est pas intellectuelle. C'est quelque chose de très charnel. Après ce besoin vital, vient l'envie qui est de l'ordre de désir, du désir. Lorsqu'on vit dans un pays comme l'Afghanistan, il y a une censure qui vient de très 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 loin. Et à un moment donné, on peut donner toute la liberté de dire ou d'écouter, mais si le corps n'est pas ouvert, ça ne sert à rien. Il faut trouver cette liberté à l'intérieur de cela pour l'imposer à l'extérieur et commence ensuite la complication de censure géopolitique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je suis d'accord avec Atik Rahimi, mais j'ai aussi, à mon avis, ce que Atik dit, c'est même pas, c'est pas toujours vrai, même dans son cas, en ce qui concerne son écriture.
Ouais.
Il vient en France quand lorsqu'il a 20 ans, 20
c'est ça, il vient en France assez jeune, oui.
Voilà. Et déjà, à l'époque, il est poète. Il écrit des poèmes. Mais il publie pas ses poèmes. Mm. Et puis, il devient écrivain en France. Et c'est en France qu'il retourne dans son pays.
C'est ça. Ouais.
Dans l'imagination, je vous dirais. Et je suis d'accord avec lui que pour... parce qu'on vit, puisqu'on vit dans un cycle infernal où il y a toujours la censure, il faut que chacun crée sa propre liberté dans ce contexte.
C'est ça.
Et ce que tous les écrivains afghans, à mon avis, c'est ce que tous les écrivains afghans font. Et ils créent ces petits espaces de liberté pour s'exprimer. Mm. Mais pas toujours, il n'y a pas toujours la censure présente. Mm. Au moins, je sais que la censure gouvernementale n'existe pas. Il y a la censure sociale, bien sûr.
C'est ça.
Parce qu'il y a certains gens qui peuvent vous menacer pour votre écriture.
C'est ça.
Pour ce que vous avez écrit. Je voulais aussi dire que moi j'ai l'impression que en m'éloignant de l'Afghanistan, je me suis rapproché de ce pays.
C'est ça. Le fait de partir vous a permis de le revisiter autrement. Il a fallu cet éloignement pour peut-être le redécouvrir différemment.
Exactement. Et ça, je pense que c'est le résultat de l'exil.
C'est ça.
Je pense souvent à une image.
Oui.
Imaginons quelqu'un, un jeune homme qui est en train de rendre visite à un ami qui habite dans une autre ville. Mm-hmm. Et ce jeune homme, il n'a jamais vu cette ville, cette deuxième ville. Mm-hmm. C'est la première fois qu'il s'y rend. Et en se promenant avec son ami dans un parc, je ne sais pas, dans les rues, il lui dit « Écoute, cette rangée d'arbres, c'est tellement joli. » Ou, tu vois, il y a beaucoup d'oiseaux dans cette ville. Mm-hmm. Tandis que là où j'habite, il n'y a pas d'oiseaux. Et ce ciel, il est tellement bleu et Et son ami lui dit que, ben écoute, ça fait des années que moi j'habite dans cette ville, mais j'ai jamais vu ce projet d'arbre.
C'est ça.
J'ai jamais vu que le ciel est plus bleu qu'à Paris. Que ces oiseaux, ben, ils existent vraiment. Exil, pour moi, cette sensation. Cette personne qui vient dans une ville et qui voit tout. Voilà, c'est un regard différent et extérieur. Mais ce n'est pas seulement cette ville qu'il voit pour la première fois.
Oui.
Après, de retour à sa ville, j'ai l'impression qu'il verra la ville, sa ville, là où il habite, sa ville. Ça aussi, il le verra différemment.
C'est ça. C'est que ça va faire bouger son regard. De fait, peut-être que ça va l'aider aussi à poser un tout autre regard sur son environnement proche, sur sa manière de regarder le monde, de le ressentir, et donc du coup de modifier complètement sa vision qu'il pouvait avoir jusqu'à présent.
Exactement. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'en m'éloignant de l'Afghanistan, je me suis reproché de ce pays, parce que j'ai connu pour la deuxième fois mon pays grâce à la France.
C'est ça. Cette situation d'exil vous a permis de retrouver finalement, de revoir autrement ce que pouvait être l'Afghanistan.
Exactement. Et pour revenir à votre question, qui était celle de la censure et la liberté, je pense que là, puisque je vis dans un pays libre où la censure n'existe pas, j'ai l'impression que je peux écrire sans me censurer de l'Afghanistan et aussi sans avoir cette gêne permanente dans ma tête que il faut pas juger tes personnages, il faut pas les juger parce qu'ils sont des victimes, et donc ce livre, je pense que dans ce livre il y a pas de jugement, mais juste une description.
C'est ça, et on le vit comme ça d'ailleurs, l'ayant parcouru bien évidemment et lu tous ces derniers jours. Au contraire, je suis assez d'accord avec vous, il n'invite pas le lecteur à porter un jugement sur cette situation. Au contraire, je pense qu'au fur et à mesure des pages, en tout cas pour nous ici en France, en Occident, on découvre petit à petit une réalité qu'on ne soupçonnait pas. On découvre, vous parliez de polyphonie, de destin et de survie aussi de tous ces personnages. Et c'est peut-être ça dont on prend conscience au fur et à mesure des pages. Et on en prend d'autant plus conscience de fait que vous nous accompagnez à élargir ce regard par rapport à ce que vous nous disiez juste à l'instant. C'est bien parce qu'on va essayer de, par rapport à une situation, par rapport à un individu, par rapport à un pays, de pouvoir être attentif à toutes ces multiples facettes, même les facettes les plus insoupçonnées, que du coup va s'élargir notre regard, va s'élargir nos perceptions, et ça ne veut pas dire juger, bien évidemment. Et je crois que la manière dont vous avez conçu votre livre, il a tout à fait cette... il nous prend par la main pour nous obliger à ouvrir petit à petit notre regard et à sentir que cette situation ô combien compliquée qu'on évoquait au début de notre entretien, c'est cette vie de tous les jours et que rien n'est banal finalement et que peut-être dans cette ville de Kaboul aujourd'hui, toute la fragilité humaine et toute la force de l'individu qui essaye d'exister, c'est bien ça l'actualité, c'est bien ça ce présent et peut-être que votre ouvrage nous permet de prendre conscience de cette véritable réalité qui n'est pas celle des images, qui n'est pas celle de la presse, mais voilà, d'un ressenti très profond.
C'est ça. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ben, écoutez, je n'avais pas écrit ce livre pour les lecteurs
Et oui.
français. Parce que c'était écrit en persan.
Bien sûr.
Et, j'ai aussi dit quelque part que ce, pour moi, je suis désolé d'utiliser ce terme, mais c'était un bâtard.
Vous avez prononcé ce mot, oui, effectivement.
Oui. Parce que c'est aussi, je pense, qu'à l'époque, c'était la conséquence d'être à nouveau arrivé à Paris.
C'est ça.
Et je me sentais très, très mal à l'aise parce que mon français ne me permettait pas de m'exprimer facilement, ni en écrit, ni quand je parlais. En oral, et le persan, c'était une langue que je n'avais personne avec qui...
c'est ça, pouvoir parler.
On parlait persan,
voilà, c'est
à part quelques connaissances, mais ce n'était pas suffisant.
Alors vous étiez cheval, vous étiez finalement, pardon, entre des positions langagières très différentes, parce que effectivement vous aviez votre langue, le persan. Je crois qu'aussi l'anglais faisait partie de vos possibilités. Et donc il y avait du coup comment continuer à écrire, comment essayer de s'exprimer, comment arriver à peut-être un jour pouvoir écrire en français. Et je pense que vous êtes passé par cette. Je crois qu'à un moment donné vous évoquiez aussi au contexte de cette situation langagière, de dire qu'à un moment donné, vous aviez besoin d'un exil langagier pour petit à petit exprimer votre situation.
Exactement, c'est exactement ça. Et, le persan, donc c'était, je parlais plus persan, et je n'avais aucun livre en persan. Donc la seule solution pour moi, la seule langue qui était présente et que je connaissais, c'était l'anglais. Et j'ai essayé même de m'exiler langagièrement dans cette langue, dans langue anglaise. J'ai écrit un petit livre, j'ai consulté quelques amis anglophones. Un d'entre eux m'a dit que c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est pas ta voix. C'est pas ta voix, donc moi, en tant qu'anglophone, quand je le lis, je sais que cette personne, il a essayé d'écrire.
C'est ça, mais que c'est pas véritablement elle.
Voilà, d'écrire pour montrer que moi, je connais bien cette langue, j'utilise des mots que personne n'utilise plus en Angleterre ni aux États-Unis. Je connais les tournures classiques des phrases et tout ça, mais ce n'est pas la vraie écriture. La vraie écriture, c'est que tu dois t'exprimer comme tu veux et comme fluidement. Ça doit être fluide, cette écriture.
Donc ça semble le...
C'est pas le cas.
C'est le persan qui vous semble même aujourd'hui pour continuer d'écrire. Quand vous continuez d'écrire vos prochains ouvrages, vous écrivez en persan actuellement?
Non. Ça, je ne sais pas, c'est une entreprise très difficile.
Oui.
Mais j'ai commencé à écrire en français. Je sais mes problèmes, je sais mes faiblesses. Mais en même temps, ça me permet de découvrir, en écrivant, de découvrir cette langue.
C'est ça.
Qui est français, la langue française. Et honnêtement, c'est une... C'est une découverte qui est, comment dirais-je, exaltante. Parfois, en écrivant, je sens que quand j'écrivais en persan, les mots, les phrases, tout ça était tellement familier que je pensais que je n'ai plus besoin de faire une petite recherche, c'était, comme on dit, le mot m'échappe, c'était une sorte d'intuition, par intuition, j'écrivais ma langue. Mais là, en français, ce n'est pas du tout le cas.
Là, vous êtes obligé de rentrer dans la langue, oui, c'est ça.
Exactement. Et écoutez, chaque phrase est une découverte.
C'est sûr. Et comment, justement, il serait intéressant, maintenant on évoquait tout à l'heure que le fait que l'exil vous ait permis, vous, d'avoir un autre regard sur votre propre pays et de le redécouvrir avec d'autres yeux, d'autres sensations. Comment, si on inverse aussi un petit peu les choses, comment aujourd'hui, après ces quelques années de présence en France, ici, dans un tout autre contexte, quel regard portez-vous, quel regard l'écrivain Ross Rahomani porte-t-il justement sur la France, sur ce qu'elle est, avec elle aussi, ses diversités, ses problématiques, ses souffrances aussi, ses violences aussi par certains moments. Quel regard portez-vous?
Ben écoutez, moi je pense pas seulement sur la France, mais aussi certains des pays européens, oui, et même sur les États-Unis. Moi, je pense que vous avez lu un texte au début de notre...
Oui, de Jan Kelevich.
Exactement. Et là, il parlait de l'incertitude.
Tout à fait.
Moi, je pense qu'on vit tous dans une période dangereuse d'incertitude totale. Mmh. Et de manque de confiance. Mmh. Il y a une sorte de résurgence,
oui,
des choses qu'on pensait qui sont...
qui étaient un petit peu lointaines de nous, effectivement.
Voilà. Mmh. Et tout ça, ça m'inquiète vraiment. Mmh. En France, avec ce phénomène qu'on a... qu'on dit la violence policière, moi, ouais, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer ce mot, mais en tout cas, c'était quelque chose d'inédit.
Ouais.
J'ai vu le démantèlement d'un campement de migrants à la place de la République. Et vous savez que d'un côté, j'ai un travail journalistique.
Absolument, vous êtes toujours à France 24.
Hein, oui, c'est ça.
Voilà.
Et
donc, vous êtes vraiment pris dans cette problématique qu'évoquait largement la presse au cours de ces dernières semaines, c'est-à-dire comment des journalistes pouvaient, sur le terrain, continuer à poursuivre leur travail et notamment avoir des besoins de filmer ou de rendre compte et avec toutes ces questionnements, effectivement, entre toute cette problématique entre les violences diverses et autres, et notamment policières qui pouvaient exercer et qui, du coup, venaient entraver aussi le travail de certains journalistes.
Oui, c'est ça. Ça entrave le travail journalistique. Et
est-ce que vous avez été, pour votre part, empêché ces derniers temps de...
Non.
Pouvoir réaliser?
Non, depuis mars, normalement, on travaille chez nous.
Oui, c'est ça.
Nous sommes en télétravail.
Oui.
Et moi, je n'étais pas présent, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, vidéos, et j'ai aussi, j'avais quelques témoignages, oui, des gens qui étaient présents, par exemple, dans ce campement. Mmh. Et, mais en tout cas, je voulais dire que la situation devient de plus en plus...
Vous avez une inquiétude.
Inquiétante, ouais,
c'est
malheureusement.
Ça. On sent bien que toute cette situation, en plus on voit avec la crise sanitaire, que tout dans le monde entier, voilà, qu'elle bouleverse, qu'elle met en tension, qu'elle rend les quotidiens difficiles aussi de nombreuses personnes. Et justement, vous évoquiez, on pouvait évoquer l'étrangeté tout à l'heure sur Kaboul, mais la place de l'étranger, de celui qui est autre, de celui qui peut amener... Alors elle se transmute, cette notion d'étranger, de fait que le virus est transmissible par les uns, par les autres, donc on a peur de l'autre à nouveau et renforce bien évidemment finalement des peurs, tendent aussi à faire qu'on s'enferme et qu'on referme des frontières, qu'on ait peur de l'autre, d'échanger avec l'autre. Tout ça re-questionne profondément ce que je disais au début de notre entretien, finalement, les fondamentaux du vivre ensemble, du comment être ensemble à plusieurs. Et effectivement, toutes ces questions aujourd'hui sont au cœur et certainement de l'année qui démarre, ces questions vont être au goût du jour en permanence parce que il y a nécessité aussi de les retravailler, de les revisiter. Mais ce que j'aime bien aussi dans votre attitude, vous l'avez dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est intéressant de le rementionner par rapport à l'inquiétude que vous soulevez, mais aussi votre attitude d'écrivain par rapport à votre environnement. Un de vos objectifs, c'est quand même de comprendre le monde, comprendre les autres et me comprendre, raconter ce monde, comment vous le voyez, comment comprendre l'esprit d'un pays, comprendre les autres. C'est quand même quelque chose qui vous guide très fortement dans votre démarche d'écrivain et qui montre la grande ouverture que vous manifestez vis-à-vis des autres et notamment du pays dans lequel vous êtes accueilli ici en exil en France.
Moi, je pense toujours que en écrivant, l'écriture, le moment d'écriture, oui, c'est le seul moment véritable de penser, mm-hmm, d'abord pour moi, et de comprendre à travers
c'est ça,
ce processus de pensée. C'est parfois chaotique, bien sûr, c'est pas toujours cohérent. Se penser, c'est difficile, un travail dur, je pense. En faisant tout ça, je veux justement ou seulement comprendre ce qui se passe.
C'est ça.
Là où j'habite, là où j'habitais, j'avais l'habitude d'habiter.
Oui.
Et là où j'habiterai peut-être.
C'est ça.
C'est parce que c'est le domaine du possible, le futur, comme vous avez dit dans le texte.
Tout à fait.
Et en même temps, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une réponse très... une réponse très soit suffisante, soit convaincante, mais j'ai l'impression que je m'ennuie trop.
C'est ça.
Et c'est pourquoi j'écris parfois.
Oui.
Pour ne pas, pour me débarrasser de cet ennui.
C'est une manière
insupportable.
C'est ça. De l'évacuer et en même temps de retrouver peut-être cette vitalité intérieure.
Exactement. Et justement, il y a quelque chose, je suis tombé sur un petit récit écrit par Walter Benjamin.
Oui, tout à fait.
Là, il dit que il parle, le récit s'appelle Mouchoir. Ouais. Il parle d'un voyage, je ne sais pas, à une ville au Maroc, je pense. Et là, il dit que celui qui ne s'ennuie jamais, il ne saurait être conteur.
Ah, c'est très beau.
Oui, c'est très beau. Et je me suis dit que c'est exactement,
Ce que vous ressentez.
C'est exactement ce que je ressens. Parce que parfois, l'ennui, ça peut tuer, vraiment. Et donc, on a besoin de quelque chose qui, d'un côté, nous aide à comprendre notre entourage, mais d'un autre côté, nous permet de comprendre nous-mêmes et nos ennuis.
Tout
pourquoi
à fait.
On est tellement, on se sent tellement ennuyé.
Et du coup, Ross Rahomani, nous arrivons bientôt au bout de cet entretien, mais quels sont, là on a parlé justement, quand j'évoquais tout à l'heure, et l'objet de notre entretien d'aujourd'hui, la parution, rappelons-le, de votre ouvrage « La mort et son frère » paru donc aux éditions Actes Sud, traduit par Sabrina Nouri. Ça, c'était déjà un livre que vous aviez écrit. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, ici en France, vous vous êtes lancé dans un nouvel ouvrage, dans une nouvelle écriture?
Oui, je me suis lancé dans une nouvelle écriture, comme vous dites. Ça fait presque 3 ans
Oui.
que j'écris et je réécris. Et je suis pas tout à fait satisfait du fruit de mon travail pour l'instant.
Est-ce qu'on saurait vous pourriez nous dévoiler, même si c'est qu'en tout petit filigrane, quel serait le fil rouge ou le ce qui a provoqué votre désir d'écriture, la thématique entre guillemets de ce futur livre?
Écoutez, tout d'abord, c'était ce résultat de l'exil dont je parlais. Et je pense que en France, j'ai connu une partie de l'histoire de mon pays que je connaissais pas. C'est les années 1840.
Oui.
C'est là qui se passe l'histoire. Et c'est pas du tout un livre historique, c'est-à-dire on voit pas des personnages historiques.
D'accord.
Dans le livre. C'est un monde créé par l'imagination,
oui.
Si j'ose dire. Et donc, c'est une histoire en même temps d'amour, d'infidélité, de trahison.
Ouais.
De violence aussi, mais et des aspects inconnus de la vie à Kaboul, parce que cette année 1839, c'est une date très très importante dans l'histoire de l'Afghanistan et surtout dans l'histoire de la ville Kaboul.
Oui.
Parce que à cette année, pour la première fois, les forces coloniales, les Britanniques, franchissent la frontière et entrent dans ce pays, pas pour le coloniser, parce qu'ils n'avaient pas envie de coloniser un pays comme l'Afghanistan,
oui.
Mais pour installer un roi marionnette là-bas. Et c'est pendant ces 3 années qui sont là que l'histoire se passe.
D'accord.
Écoutez, moi je voulais, pour la première fois dans mes écritures, je voulais montrer l'affrontement entre deux culture, l'une qui est celle des Britanniques, qui est à l'époque qui était une culture presque mondiale, parce qu'ils étaient
partout dans le monde. Oui, parce que l'Empire britannique au 19e siècle était énormément, bien sûr, présent et fortement présent.
Oui, c'est l'empire où le soleil ne se couche jamais, parce que à ce côté-là, on a l'Angleterre, à ce côté-là, on a l'Inde.
Absolument.
Et voilà, c'est cette rencontre entre deux peuples.
En tout cas, Ross Rahomani, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation, de nous avoir aussi fait partager, d'une part, bien sûr, cet ouvrage dont je rappelle le titre, La mort et son frère, que vous pouvez trouver donc aux éditions Actes Sud, livre traduit du persan donc par Sabrina Nouri. Et je ne peux que vous inviter à vous plonger dans ce livre qui, effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous permet de découvrir avec d'autres yeux, sous d'autres facettes, l'univers, la vie et la réalité d'un Kaboul aussi d'aujourd'hui. En tout cas, Ross Rahomani, on reste en lien, bien sûr. Nous le faisons déjà depuis quelques années, là, maintenant, et nous allons le poursuivre. Y a-t-il, pour terminer, un projet d'édition d'un de vos ouvrages que vous aviez déjà écrit en Afghanistan et qui soit pris à nouveau en charge par un éditeur français, ou ça c'est peut-être encore en travaux ou en recherche?
Pour l'instant, non, il n'y a pas un projet d'édition, mais un de mes livres est en train d'être traduit
super.
En français.
Bon, bah alors, on va guetter, en tout cas, donc un peu sa réalisation, puis j'espère sa publication dès que possible. En tout cas, Rosra Omani, merci encore. En tout cas, une très belle année à vous, et puis on fera en sorte de se reparler régulièrement au cours de cette année. Alors, chers auditeurs, alors je vais garder Rosra Omani, si vous me permettez, donc, Ta Didarbad, hein, si je peux dire ainsi en afghan.
Ta Didarbad.
À très bientôt, en tout cas.
À très bientôt.
Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Et puis, vous le savez, si vous voulez podcaster la présente émission, vous pouvez le faire quand vous le souhaitez en vous rendant sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que je vous souhaite la plus belle possible, mais bien sûr avec Radio B.